RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, Le sport au cœur de la foi, avec cette semaine comme invité Myriam Skludarek, 4 fois vice-championne du monde de karaté en individuel et championne d'Europe et championne du monde par équipe en 2000 et qui a aussi été championne du monde universitaire. Bonjour Myriam.
Bonjour Joël.
Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors dernièrement, j'ai reçu Francine Laëly qui a été championne d'Europe universitaire et multiple championne de France de taekwondo, ainsi que Chris Hughes qui est entraîneur de taekwondo.
Oui.
Et là, donc, on continue dans les sports de combat avec vous.
Oui.
et le karaté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé dans le karaté et un petit peu votre parcours professionnel?
Alors, le karaté, j'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans. J'étais invitée dans un club local où on habitait avec mes parents et ma sœur. J'étais très jeune, assez remuante, et mes parents avaient décidé de nous mettre, ma sœur et moi, dans un club de karaté parce que, paraît-il que ça canalisait un peu les enfants. Il s'est un peu passé. J'ai bien accroché, ma sœur aussi, et j'ai pratiqué de longues années jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Là, je pratique un peu moins parce que je suis maman aujourd'hui, mais voilà, jusqu'à mes 35 ans, j'étais intensivement karatéka.
Et est-ce que du coup, à quel moment vous êtes projetée? Est-ce que c'était un rêve d'être championne du monde de karaté? Quand vous regardez en arrière, quelles étaient vos attentes par rapport à ce sport?
Alors non, en fait, quand j'ai commencé à faire du karaté, je faisais aussi de la gym, aussi du tennis et de la natation. Voilà, j'étais une petite fille, on va dire, comme on dit, douée dans tous les sports. Et ça s'est un peu plus orienté sur le karaté. Pourquoi? Parce qu'on avait plus accroché avec le prof, je pense, à ce moment-là. C'est les commodités étaient plus appropriées pour nous amener à ce moment-là. Et donc, non, j'avais pas prévu d'être championne du monde quand j'étais plus jeune. Mais après, on a été orienté vers un club plus compétition, orienté compétition. Et là, évidemment, il y a des aptitudes qui se sont révélées sur mes 12-13 ans où mon prof avait dit « Myriam sera championne du monde un jour ». Voilà.
Et ça, vous l'avez cru, cette phrase, c'est des choses qui sont positives. Souvent, on entend des choses qui nous disent « tu n'y arriveras jamais ». Là, c'était une phrase qui galvanise.
Mais complètement. Voilà, c'est pour ça que je salue tous les entraîneurs, tous les coachs. Je ne dis pas qu'un résultat sportif, c'est une finalité en soi. Voilà, bien sûr. Mais je dis que croire en l'autre, encourager l'autre, avoir des paroles positives, avoir des paroles encourageantes, c'est positif pour un enfant, pour un ado, que ce soit dans le sport ou dans les études. Voilà, je pense que ça sert. Et effectivement, le discours que j'ai entendu à ce moment-là, sans doute que ça s'est ancré dans mon esprit et j'ai jamais perdu confiance en fait. J'avançais dans la confiance en fait.
Et qu'est-ce que le karaté et ces médailles que vous avez eues au niveau mondial vous ont apporté dans votre vie?
Alors en fait, j'en garde un très bon souvenir personnel de performance le jour J. C'est-à-dire que moi, j'adorais ça, le challenge du jour, être là en compétition, en confrontation. C'était ça, hein, c'était des rapports sains avec mes concurrentes. On se connaissait, on avait un respect mutuel. Et ce que j'avais, c'était le challenge du jour, de dire voilà, je me suis préparée tant de moments. Je me mets à l'épreuve aujourd'hui. Est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver. Voilà. C'est l'épreuve du jour qui me convenait bien parce que j'aimais ça. Donc, j'étais pas stressée. J'avais pas peur de perdre. J'avais surtout l'envie de gagner. Voilà. Et mon souvenir, c'est ça. C'est le souvenir de challenge personnel, de moments d'émotions communs, quoi. Enfin, avec toute l'équipe de France, on était un peu des frères de bataille, quoi. Enfin, on était des... C'était ces beaux souvenirs-là. Après, aujourd'hui, proprement parler, j'en fais pas le commerce. Je suis pas impliquée dans le karaté. Je suis pas, mes enfants, je leur dirai évidemment, mais non, j'en fais pas de la publicité, dans mon quotidien. Non.
Vous êtes toujours dans l'émission Le sport au cœur de la foi. Avec Myriam Skludarek, 4 fois vice-championne du monde en individuel et multiple championne de France et numéro 1 française sur la scène mondiale jusqu'en 2006. Alors Myriam, le karaté est un art martial. Souvent, il peut y avoir des liens entre les arts martiaux et le domaine spirituel, avec le bouddhisme, même le monde occulte. Est-ce que vous, ça vous a, le karaté vous a attiré vers le bouddhisme? C'est quelque chose que vous avez pratiqué? Quelle place par rapport au monde occulte? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité?
Alors, oui, j'ai été bouddhiste jeune, parce que mon prof de karaté était bouddhiste, était moine bouddhiste. Il a beaucoup pratiqué, il est allé beaucoup en Thaïlande, dans les temples. Et effectivement, il nous a initié certains licenciés de son club, il nous a initié, voilà, c'était une initiation gentillette, hein, mais on était bouddhiste. Moi, je sais que je l'ai été dans mon adolescence jusqu'à mes 20 ans. Voilà, j'allais dans son temple, voilà, j'assistais à des cérémonies bouddhistes, voilà. Après, à 20 ans, je me suis éloignée de tout ça parce que j'ai été prise par le niveau, puis après j'ai déménagé, voilà, et puis ça m'a pas poursuivie. J'avais pas le besoin et le ressenti personnel de m'accrocher à ça. Et ensuite, oui, alors voilà, il y a une théorie de lien occulte avec les arts martiaux et tout ça. Ouais, moi j'y crois. J'y crois personnellement parce que j'ai fait des expériences personnelles spirituelles. Alors, je ne sais pas si c'est lié proprement parlé à la pratique d'un art martial, mais en tout cas, j'ai eu des expériences occultes, pas initiées par ma propre personne, mais voilà, il m'est arrivé des choses, quoi.
Et du coup, est-ce que ça a impacté vos compétitions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez expérimenté vous personnellement?
Bah alors clairement, avec beaucoup de recul aujourd'hui, de voilà, ma carrière s'est étendue, j'ai commencé à exposer, comme on dit, en senior en 98. J'ai obtenu mon premier titre de vice-championne du monde en senior alors que j'étais que junior en 98. Et à partir de 2001, 2000, 2001, j'ai reçu des coups de fil, des appels de personnes qui frappaient sur quelque chose, en fait. Et je comprenais pas au début ce que c'était. Au début, c'était un appel comme ça, forcément anonyme. Et puis j'entendais frapper quelque chose et moi je pensais que c'était quelqu'un qui m'appelait et qui avait quelque chose, qui avait son portable dans la poche et qui avait fait une erreur une fois, deux fois et puis à un moment donné j'ai commencé à m'interroger parce que c'était tout le temps des appels qui se rapprochaient des dates de compétition. C'était toujours 2, 3 mois avant mon championnat d'Europe, 4, 5 mois avant mon championnat du monde et bizarrement après ces coups de fil, ça paraît dingue ce que je raconte mais bizarrement, après ces coups de fil, ces appels, j'avais une expérience, dans ma chambre, quand j'étais seule, physique, avec quelque chose d'oppressant qui venait m'agresser. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais assise, ça je m'en souviendrai toujours, j'ai reçu comme un coup de couteau dans le dos, mais j'étais assise, j'ai reçu un coup dans le dos, mais comme si on m'avait planté quelque chose dans le dos. Alors, je me suis levée comme ça, j'ai bondi de ma chaise, j'étais toute seule, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'avais mis ça sur le compte au début d'une contracture musculaire, du rhomboïde entre les omoplates. Mais à ce point-là, c'était juste inimaginable. Et c'était une fois, une seule. Et j'en avais parlé justement à mon kiné derrière. Je lui ai dit, tiens, j'ai eu un coup là. Il me dit, mais comment ça se fait? Je comprends pas. Bref. Après, voilà, après un autre appel, j'avais eu clairement une présence dans ma chambre qui était venue m'agripper dans mon lit. Enfin, voilà. Ça paraît fou ce que je raconte, mais moi je peux vous dire, et il y a des gens qui me connaissent, que je suis quelqu'un de très terre à terre, je suis quelqu'un de pas du tout illuminé, voilà, et je suis pas du tout le genre à appuyer sur ce genre de détails, mais je peux vous dire que je l'ai vraiment vécu.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans un cheminement spirituel, vous avez vécu des choses comme ça? Où est-ce que vous êtes positionné? Vous êtes allé, vous avez pratiqué le bouddhisme. Est-ce que toute cette recherche de spiritualité, elle vous a conduit vers quoi aujourd'hui?
Ah bah alors écoutez, moi, voilà, moi, comme je vous dis, j'étais bouddhiste. Bon, déjà, voilà, là-bas, j'avais une quête spirituelle. J'avais un cheminement vers Dieu. J'aimais Dieu. Voilà. Je le savais. Chez moi, je ne suis pas d'une famille chrétienne. Mes parents ne m'ont pas baptisée, ils ne pratiquaient pas, ils n'allaient pas à l'église, mais j'avais tout le temps cette petite quête dans ma chambre, j'avais des petites statues de la Sainte Vierge, voilà, j'avais envie de savoir, j'avais envie de connaître, et j'avais toujours cette petite accroche-là, j'étais curieuse. Donc j'ai été bouddhiste parce qu'on m'a orientée vers là, parce que voilà, par influence, quand on est enfant, on nous dit d'aller un petit peu, et j'étais curieuse, j'avais vraiment ce besoin de rencontre avec Dieu, je cherchais Dieu en fait. Et même en étant bouddhiste, il y a des moments de, comment dire, de méditation. C'est ça que j'aimais. J'aimais bien la communion. C'était pas plus les prières qu'il faisait. C'était vraiment la communion que j'avais avec Dieu. J'ai l'impression de me sentir proche de lui. Et puis après, voilà, par l'occultisme, évidemment, bon, je suis passée aussi par... quand on est sportif, on a le corps un peu martyrisé par le magnétisme, les gens qui nous font passer un peu les courbatures, tout ça. Et puis j'avais toujours envie de me baptiser. Voilà. J'avais cette idée de me faire baptiser. Pourquoi, je ne sais pas. Alors j'allais dans une église quand j'avais un peu le temps. Et je rencontrais un prêtre qui me parlait du baptême, mais il ne s'accrochait pas plus que ça. Je dis, je veux me faire baptiser, mais pourquoi voulez-vous faire baptiser? C'est toujours lent, il n'y avait pas d'accroche. Et un jour, je me suis retrouvée dans une église protestante. Et là, j'ai vraiment entendu parler de l'évangile. Et là j'ai compris. Et j'ai rencontré Jésus.
Et comment s'est fait cette rencontre? C'est à travers des amis ou c'est vous tout seul? Vous découvrez la Bible?
Non, c'est à travers une amie, d'ailleurs, qui lance une marque chrétienne, Marie Plug, une marque de vêtements. Nelly, je l'ai rencontrée, on se connaissait pas, on s'est parlé 10 minutes à peine, allez, on va dire, ouais, 10 minutes, et en fait, on s'est raconté toute notre vie, on avait la même vie spirituelle, on a eu la même vie, et on s'est regardé comme ça, on a fait, oula, mais que se passe-t-il? Et en fait, c'est bizarre parce que on a eu un miroir, et elle m'a parlé de Jésus, elle a juste planté la petite graine, elle m'a dit, ah, moi, voilà, c'est moi, regarde-moi aujourd'hui, c'est ça. J'ai dit oui, bien à elle. Moi, j'ai dit voilà. On s'est rencontrés un quart d'heure. Hein. Mais ce qui était choquant, c'était de rencontrer un miroir en face de soi, une personne qui avait vécu les mêmes choses. Je parle d'un point de vue spirituel, hein, les mêmes quêtes, les mêmes recherches, les mêmes choses. Et j'étais là, je dis mais c'est fou quoi, de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui vit la même chose. Et finalement, elle avait planté cette petite graine, elle avait parlé de Jésus, mais bon, moi, je n'avais pas relevé. J'étais dit waouh, ouais, c'est bien pour elle, voilà. Et quelques jours après, je m'interroge quand même. Je me dis, tiens, je vais voir. Et puis, je me suis retrouvée dans une église à Cergy-Pontoise, une église chrétienne, un cœur nouveau, avec le pasteur Coadou, Rémi Coadou. Et je me suis retrouvée là parce qu'elle m'avait dit de passer voir un pasteur aussi qui prêchait à ce moment-là, c'était Freddy de Coster. Et elle m'a dit, il est formidable, il faut que tu le vois et tout. Et moi, j'avais jamais mis le pied dans une église chrétienne évangélique comme ça. Et je me suis mise au fond de l'assemblée, quoi. Et j'étais curieuse. Voilà. J'étais quand même que curieuse. Et puis, le pasteur s'est adressé à moi, et là, je suis tombée parce que il ne m'a dit que des vérités. Il m'a raconté ma vie et il m'a dit d'autres choses que je garderais pour moi. Mais voilà. Voilà, la conversion s'est faite comme ça. Voilà. Et il me connaissait pas, hein, je précise. Hein.
Oui, donc c'était là, on est dans un cas de parole, on va dire, de connaissance ou prophétique pour qui sont plus initiés, qu'on retrouve dans les dons spirituels qui sont évoqués dans la Bible. Alors, qu'est-ce que cette rencontre avec Jésus vous a apporté qu'une médaille de championne du monde ne vous avait pas apporté?
Mais il m'a apporté la vie. Moi, la médaille de championne du monde, bah, elle est dans mon placard, hein, je le dis clairement. Même si je suis fière de cette vie... de combativité, de challenge que j'ai relevé, hein, parce que faut pas non plus. Mais avec le Christ, c'est une vie qui s'est ouverte à moi. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est l'émergence. C'est la croissance. C'est tout. C'est un nouveau monde aussi, le monde chrétien, des amis, des amis qui nous ressemblent, un vrai langage, un vrai discours, des vrais échanges. Voilà ce que m'a apporté le Christ en fait, hein, Jésus.
Merci Myriam d'avoir répondu à mes questions. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre entretien. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça a changé aussi dans votre quotidien, dans votre travail et aujourd'hui où vous en êtes dans votre reconversion. On parlera aussi de votre rôle de femme dans le sport, la place de la maman. On entend un petit peu votre enfant qui est en bas âge, qui est là, la joie de la maternité et sa place dans le sport du haut niveau. Merci beaucoup Myriam et à bientôt sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, Le sport au cœur de la foi. On poursuit notre émission avec la multiple championne de France et quatre fois vice-championne du monde de karaté, Myriam Skloudarek. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, vous nous avez expliqué comment vous êtes arrivée dans le karaté, ce que vous avez expérimenté aussi, les difficultés avec les oppressions occultes que vous avez pu expérimenter, votre passage par le bouddhisme, et vous nous avez parlé que vous avez cheminé vers Jésus à travers le témoignage aussi d'une amie et à travers des rencontres, des visites dans des églises protestantes évangéliques.
Oui.
Ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, avec le recul, vous avez découvert l'évangile tardivement au cours de votre carrière, sur le tard. Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous d'être chrétienne à l'apogée de votre carrière?
Oula, ça aurait changé peut-être que j'arrête plus tôt. Je sais pas. Je pense que voilà, j'étais en route vers Jésus parce que j'ai arrêté ma carrière en 2010 et j'ai réellement une expérience avec Jésus en 2005. Donc je pense que c'était amorcé. Mais je pense que voilà, pour m'engager pleinement et pour vivre pleinement ma foi, je pense que peut-être j'aurais pu plus de recul par rapport à mon milieu, par rapport à mon quotidien de sportif de haut niveau. Alors peut-être que ça aurait apaisé certaines choses, ça m'aurait peut-être délivré des oppressions occultes qu'on me mettait, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça aurait changé quelque chose, c'est certain.
Et justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? 2005, une expérience, vous l'avez partagé la dernière fois. Pour vous, Jésus, c'est quelqu'un qui devient important, mais vous n'allez vous engager avec lui qu'en 2012. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 ans? Vous allez être aussi entraîneur ouais, au pôle national du karaté.
2005 à 2012, hein, j'ai continué mon cheminement, pareil, je m'interrogeais toujours. Alors bizarrement, j'avais la Bible chez moi. Elle était constamment chez moi, sur mon chevet, c'était là. Et je l'ouvrais de temps en temps, mais je ne savais pas l'interpréter, je ne savais pas la lire. Je savais que c'était un livre important, mais voilà, c'était là. J'avais d'autres livres hein, sur le New Age, voilà, je me suis renseignée sur plein de choses. Hein, c'est pas forcément des lectures très saines, on est d'accord, l'hypnose, tout ça, bon là c'est un autre débat encore, mais...
Justement, voilà. L'hypnose, ouais. Parlons-en, on voit des grands sportifs qui pratiquent l'hypnose parce qu'ils recherchent cette paix, cette tranquillité qu'ils n'ont pas en compétition, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez expérimentées, vous avez vues?
Oui, alors moi non, c'était pas l'hypnose, c'était de la sophrologie. Et je vous assure que ça n'a pas du tout marché sur moi. c'est quelque chose qui... J'ai essayé à un moment donné, pareil, hein, parce que comme je vous dis, j'avais un mal-être au fond, je ne comprenais pas, j'avais quelque chose qui me collait à la peau, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je cherchais, hein, non seulement aussi parce que je faisais toujours deuxième au championnat du monde, on me disait, tiens, ce serait bien que tu fasses de l'imagerie mentale pour voir un peu ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a toujours quelque chose d'inconscient dans la non-réussite sportive, de débloquer quelque chose. Alors, t'es quatre fois deuxième, tu dois avoir un problème avec la victoire. Mais non, j'avais pas du tout de problème avec la victoire. C'est que c'était comme ça et que c'était sûrement une autre raison. Mais moi-même, moi, je sais au fond de moi, je me connais très bien et j'avais pas du tout de problème psychologique par rapport à la victoire ou à la défaite.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec Myriam Skloudarek, championne du monde de karaté par équipe en 2000 et aussi quatre fois vice-championne du monde en individuel. Elle a été longtemps la numéro 1 française sur l'échelle mondiale jusqu'en 2006. Et justement, vous nous avez parlé par rapport à quatre fois deuxième, vous avez parlé avant les grandes finales, les grandes compétitions, vous receviez des appels bizarres, il se passait des choses et des oppressions occultes. Maintenant que vous avez Jésus qui règne dans votre vie, dans vos pensées, qu'est-ce que Jésus peut apporter à un sportif de haut niveau concrètement? Est-ce que c'est la victoire assurée?
Non, Non, parce que la victoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une finalité en soi. On ne naît pas sur Terre pour être champion olympique ou être champion du monde. On est pour avoir un chemin. Je crois que notre but originel, c'est d'arriver vers Dieu et de retourner à Dieu avec Jésus et de retrouver son but ultime et originel. On ne naît pas pour être champion olympique ou champion du monde. C'est un cheminement. On est là pour témoigner, je pense. Si on devient chrétien, on est là pour on a un cheminement de vie. Alors si on est champion du monde ou olympique, c'est très bien. Pour certains, moins pour d'autres, mais je pense que non, c'est pas la victoire assurée, c'est déjà la victoire sur spirituelle, voilà, c'est la victoire spirituelle, la rencontre avec Jésus. Déjà, là, oui, c'est apaiser plein de choses, c'est relativiser. Alors, est-ce que ça peut aller en croissant les bons résultats, si c'est notre chemin, bien sûr, ou ça peut faire aussi tout simplement arrêter une carrière parce qu'on s'aperçoit que c'est pas notre chemin et qu'on est heureux ailleurs, c'est possible aussi.
Oui. Est-ce que ça amène justement, et aujourd'hui, ce que vous vivez, peut-être en pratiquant d'autres sports, est-ce que le dans votre foi, ça vous amène à vivre votre sport beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en paix avec vous-même et avec votre Créateur?
Oui, aujourd'hui, oui, je suis en paix. Je suis en paix. J'ai cette paix au fond que j'ai cherché des années. Ça, c'est sûr. Par rapport à mon sport, comme je dis, si je l'avais analysé et rencontré bien plus tôt, peut-être qu'effectivement ça aurait apaisé ma façon de pratiquer, que j'aurais été beaucoup plus à l'aise et plus heureuse de le faire, parce que j'avais quand même de la performance sportive, j'étais pas en échec sportif, donc ça aurait pas amélioré mon résultat sportif, mais sans doute que je l'aurais vécu avec beaucoup plus de paix et de joie, en fait. Mais ma pratique, elle était entourée d'un truc un peu bizarre où j'étais pas franchement heureuse d'être là, mais j'étais contente de le faire. Enfin voilà, c'était un peu particulier.
Est-ce que le sport de haut niveau a impacté, je dirais, négativement dans votre vie aujourd'hui, dans votre reconversion, dans votre caractère, dans votre carrière, dans votre manière de vivre avec les autres aujourd'hui?
J'attribue beaucoup de vertus au sport, dans le sens où c'est quelque chose qui nous donne, une façon de vivre saine. Hein, quand on est sportif de niveau, on ne sort pas, on s'alimente bien, on fait du sport. Donc ça, j'ai été heureuse de faire ce que j'ai fait. Mais je pense que j'y ai laissé des plumes, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est surtout aussi à cause des attaques occultes, parce que j'y étais malheureuse à un moment donné. Et il y a eu à un moment donné une perte de confiance personnelle, des grosses interrogations, des oppositions. Moi, un jour, je me suis retrouvée en stage d'équipe de France avec tout le monde contre moi. Ils me reprochaient quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose de vraiment particulier. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? On s'est retrouvé à un stage en montagne et à un moment donné, toute une équipe s'est retournée contre moi. Oui, là, là. Je n'ai pas compris. Et je pense que ça fait partie de cette envie de me mettre sur la touche et de me mettre en opposition avec la fédération. Voilà. Voilà. Enfin, c'est un grand débat, hein, mais j'y ai laissé des plumes quand même. J'ai pas été très heureuse dedans. Voilà.
Et dans votre discipline personnelle, dans le goût de l'effort, le travail, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans votre reconversion et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de passer de sportif de haut niveau à autre chose après?
Oui, j'ai acquis une pensée. Oui, je suis quelqu'un de persévérant. J'ai acquis des bonnes énergies sur la performance. Moi, je suis quelqu'un. Voilà, si j'ai un objectif, je le lâche pas. J'ai appris aussi à me dire que si je veux le faire, je peux y arriver. J'ai une confiance en moi qui est innée. Je ne doute pas de grand-chose, en fait. Je suis pas quelqu'un qui doute dans mon quotidien. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose, je me donne les moyens. Je sais que je peux y arriver si je me donne les moyens. Voilà, je suis pas une rêveuse, mais j'ai un côté positif qui m'a apporté la compétition dans le sens où j'ai appris que si je veux faire quelque chose et je me donne les moyens, je peux y arriver. Voilà ce que m'a appris le sport de haut niveau.
Et jusqu'à monter votre propre entreprise, comment ça se passe votre reconversion?
Je suis en train de monter une entreprise de rien à voir de stockage. Mais voilà, en plus c'est super bien parce que c'est en concordance avec mon esprit de défi, quoi.
Et alors, on entend votre enfant derrière.
Oui.
Parlez-nous du rôle de mère et comment on vit ça dans le sport de niveau. Est-ce que vous avez dû attendre longtemps pour avoir des enfants? Est-ce que vous avez dû sacrifier des choses, mettre ça de côté? C'est toujours un peu la tension pour une femme sportive de niveau. On va pas demander les mêmes choses aux hommes, en fait.
Oui, tout à fait. Ben oui, nous, enfin, suivant, c'est relatif à la durée de la carrière. Hein, j'ai des collègues qui ont été enceintes et qui ont repris derrière. Hein, ça se fait. Hein. Encore faut-il rencontrer la bonne personne avec qui les faire. Mais c'est vrai que plus la carrière est longue, plus on repousse cette échéance d'être maman. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait. Une vie sans enfant, ça peut se faire. Mais pour moi, en tant que femme, je ne conçois pas sans enfant, en fait. Je pense qu'on est faite pour avoir un rôle primordial dans une famille, de construire des personnes, d'aider, à cheminer. Voilà, moi, mes enfants, j'ai envie de les aider à se construire positivement, à leur donner tout ce que j'ai acquis dans ma vie et spirituellement, bien sûr. Voilà.
Alors Myriam, est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus entre aller conquérir un titre et mettre au monde un enfant? Est-ce que c'est la même intensité? Qu'est-ce qui procure le plus de joie?
Ah ben, c'est pas le même accouchement. On accouche à soi-même en étant sportif de haut niveau, puis là on donne naissance, on donne vie à quelque chose. Là il s'exprime. Hein. C'est la nature, c'est Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Voilà, on meurt à soi-même pour donner vie à quelqu'un, c'est tout autre chose. Et c'est bien.
C'est quelque chose qui vous a procuré énormément de joie, j'imagine, de défis aussi. Mais comment vous voyez la place de la maternité pour vous par rapport à votre vie sportive?
En fait, vous savez, moi, je suis pas une grande émotionnelle dans le sens où j'ai pas caressé mon ventre 10 fois par jour en lui parlant. Moi, je suis quelqu'un plutôt d'assez réservé sur mes sentiments. Mais c'est vrai que mes enfants, j'ai un amour infini pour eux. J'ai tellement envie de leur donner quelque chose de fort et de constructif pour leur vie. J'ai l'impression qu'on m'a confié un être humain, vous voyez, à forger, à essayer d'orienter. Voilà, c'est ça qui, c'est plutôt l'amour que j'ai pour le petit être que, voilà, que cette sensation d'être mère, mais c'est vraiment d'une personne à une autre personne, quoi.
Et pour finir dans cette émission, le sport au cœur de la foi, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune qui voudrait s'engager dans une carrière de sportif de haut niveau, que ce soit dans les sports de combat ou dans d'autres sports?
Oui, de s'engager si c'est vraiment sa volonté, s'il a vraiment le souhait, s'il sent que c'est ça qui va le rendre heureux, s'il est dans sa réalisation personnelle. Après, si le sport devient contraignant, qui le rend triste et malheureux, il faut qu'il se pose les bonnes questions, parce que moi-même, je l'ai été. Dans ma pratique, et pourtant j'étais en succès sportif. On peut pas dire que j'étais une sportive malheureuse au niveau des résultats, mais j'ai très mal vécu quelquefois, bon, pour des raisons que voilà, qu'aujourd'hui je connais. Mais c'est vrai que j'ai vu, après en étant entraîneur, certains sportifs malheureux parce qu'ils n'arrivaient pas à leur objectif, parce que c'était la compétition les rendait malheureux, parce qu'ils sortaient perdants, ils se posaient des questions pourquoi, pourtant ils avaient tout mis en œuvre pour y arriver, mais il y avait quelqu'un de meilleur qu'eux. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi qu'il faut gérer, donc il y a tout un staff aussi par rapport à ça qui doit être mis en place pour gérer des jeunes. Mais personnellement, au fond de lui, il faut qu'il sente que ça le rend heureux ou pas. Et à partir du moment où ça le rend malheureux, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Voilà.
Et est-ce que le sport peut combler une vie maintenant, votre regard, vous avez une vie sans Dieu dans le sport et une vie avec Dieu? Qu'est-ce qui est le summum?
Ah bah, sans conteste, hein. Moi, quand j'ai fait mes expériences avec Dieu, mais Dieu, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est infini, c'est illimité. Le sport, c'est le quotidien. C'est notre petite vie du quotidien qui peut nous occuper, notre journée. Mais Dieu, c'est fondamental. Si on n'a pas une relation avec Dieu, moi, je me lève le matin, c'est la première personne à laquelle je pense, c'est Dieu, c'est Jésus, mes enfants, après, un peu après. Mais pourtant, je les aime, toutes mes cellules, voilà, sont dédiées à mes enfants, je les aime d'un amour, voilà. Mais Dieu, c'est la première personne à laquelle je pense en me couchant et en me levant, voilà. Parce que c'est une vraie relation, c'est originel, c'est comme un papa, c'est un papa, c'est un papa, c'est un lien infini. C'est un lien voilà, qui ne peut pas être détruit. C'est fort, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout.
Merci beaucoup Myriam Skloudarek d'avoir répondu à mes questions. C'était le sport au cœur de la foi et je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.